Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Alors, c'est pour bientôt vous propose un nouvel épisode tous les mercredis et donne le micro à une femme ou à un couple qui décide de partager son parcours, ses joies, ses galères, ses questionnements, ses découvertes et qui contribue ainsi à libérer la parole autour de la fertilité. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous gâter. Et oui, nous ne sommes pas mercredi et pourtant voici un nouvel épisode. Nous ne sommes pas mercredi, non, mais nous sommes confinés. Alors bon, est-ce qu'on sait encore vraiment quel jour on est ? Non, en tout cas pas moi. Lorsque j'ai créé ce podcast il y a quelques mois, alors qu'il n'y avait pourtant aucun podcast sur le sujet quelques temps auparavant, plusieurs podcasts sur la thématique de la PMA et du désir de maternité sont sortis au même moment. Plutôt une bonne nouvelle pour la communauté, on allait enfin délier les langues, parler d'un sujet si important qui touche tant de couples. Ces podcasteuses que j'ignorais encore la veille m'ont accueilli à bras grands ouverts dans la sphère PMA d'Instagram. Je vous ai déjà présenté Constance du podcast Les enfants vont bien il y a quelques semaines et aujourd'hui, à croire qu'il s'agit du prénom nécessaire pour créer un podcast génialissime, j'ai le plaisir de vous présenter la plus douce des podcasteuses, j'ai nommé Constance Boulanger. Elle nous parle depuis Lille, elle est sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des PMettes et est entrée en parcours il y a peu. J'ai tout de suite accroché à son podcast et chéri nos conversations. Bienveillance, douceur, je suis fan. Et si vous ne la connaissez pas encore, vous le serez aussi. Allez, c'est parti, partons à la rencontre de Constance du podcast Toubilouv. Bonjour Constance et bienvenue sur le podcast.
Salut Anne-Fleur.
Comment vas-tu ?
Ça va. Écoute, ici nous en France, il est quasiment midi, donc tout va bien.
Super, et on est vendredi, donc la fin de la semaine, la vie est belle.
Oui.
Tu nous parles d'où ce matin, enfin c'est ce midi du coup pour toi ?
Du coup, je vous parle de chez moi. Je viens de Lille. Je suis bien au chaud avec mes petits chats à la maison.
Constance, on s'est rencontrées toutes les deux, je dirais, dans la sphère podcast autour de la PMA et de la fertilité sur Instagram. Moi, pour moi, ça a été un grand coup de cœur. J'aime beaucoup ce que tu fais. On fait des podcasts qui sont très différents et je pense très complémentaires. Donc, je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation ce matin.
Avec grand plaisir.
Est-ce que tu peux nous dire, donc, tu viens de Lille, tu t'appelles Constance. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quel âge tu as ? À quoi ressemble un peu ton quotidien ?
Donc je m'appelle Constance, en effet, je suis sophrologue à Lille, juste à la frontière de Lille, dans la ville juste à côté, à Saint-André précisément. Donc je suis sophrologue, je fais des consultations autour de différentes thématiques, mais au fil des années, il s'avérait que je me suis spécialisée en PMA, dans l'accompagnement de femmes qui sont en procréation médicalement assistée. J'ai eu une première consultante, une deuxième, une troisième, et à force en fait... Tout simplement, j'ai peut-être un petit nom, je ne sais pas, qui a été fait, mais bref, j'ai eu de plus en plus de femmes qui sont venues vers moi dans ce sens. Et donc, je me suis spécialisée autour de ça.
D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous définir en deux mots, qu'est-ce que c'est que la sophrologie ?
Ah, c'est un bien grand mot. À chaque fois, tout le monde entend parler de la sophrologie, mais on ne sait jamais vraiment ce que c'est. Je vais utiliser des grands mots et je vais essayer après de démystifier la chose. La sophrologie, c'est une technique qu'on dit psychocorporelle. Donc une technique qui vient toucher à la fois au corps, mais aussi à l'esprit. On va utiliser la détente musculaire, la respiration et la visualisation positive pour venir un petit peu se reconnecter à soi et puis ben, prendre conscience en fait de tout son potentiel.
Et donc j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse discuter de ton parcours et puis discuter un peu de ta démarche en fait, de comment est-ce que tu aides ces femmes et ces couples qui passent par des parcours, des tranches de vie qui sont pas toujours évidentes. Alors si ça t'embête pas, on va commencer un petit peu par parler de ton parcours perso. Est-ce que tu peux me dire avec qui est-ce que tu t'es lancée dans ce parcours et quand ?
Donc moi je me suis lancée avec mon mari, bien qu'à l'époque on n'était pas encore mariés. On s'est lancée en 2017. En sachant qu'on était déjà fiancés et que le mariage était prévu en 2018, mais on s'était dit, advienne que pourra, tentons l'expérience, en sachant que ça faisait déjà 6 ans que je prenais plus la pilule. Donc, la période un petit peu de latence, ça faisait bien longtemps que, que normalement ouais. elle était placée.
Bien sûr, mais alors du coup, pendant 6 ans, tu faisais donc, enfin, tu faisais attention à la période de ton cycle. Quel type de contraception est-ce que tu utilisais ?
On utilisait le préservatif parce que, en fait, enfin, j'en avais marre de bouffer des hormones, tout simplement. Et j'ai un super chéri qui prend autant la responsabilité. Il a dit, bah non, mais il y a un moment où c'est vrai que c'est pas qu'à toi de prendre la responsabilité d'avoir un enfant ou non. Donc, t'as pris suffisamment la pilule comme ça. Maintenant, c'est aussi à moi d'assumer. Donc, il a été hyper cool avec ça.
Génial.
Ouais. Ah,
c'est super ça. Comment est-ce qu'il s'appelle ton chéri ? Est-ce qu'on peut le
prénommer ? Oui, il s'appelle Romain.
Ok, donc toi et Romain, oui. Vous êtes prêts à vous lancer dans le projet bébé, un petit peu en avant du coup, en amont du mariage que vous êtes en train de planifier en 2017. Alors comment est-ce que ça se passe ?
Romain, ça faisait déjà plusieurs années qu'il me tannait. Alors voilà, couple un petit peu atypique. Enfin, parce que souvent on dit c'est la femme qui a plus envie, après c'est le mari qui finit par dire oui. Ouais. Donc, ça traverse. Lui, c'était Romain, il est né pour être père. Clairement, depuis qu'on est ensemble, de toute façon, c'est... un jour, je serai papa de 2 enfants. Enfin, il s'était, sa vie, elle était toute tracée.
Ah oui, il a tout le...
Avant les 30 ans, Romain allait avoir 2 enfants. Autant te dire que Romain n'aura pas 2 enfants avant ses 30 ans. et donc, en fait, c'est finalement, c'est moi, finalement, au bout d'un moment, qui a dit, bah, écoute, Romain, si, vas-y, on tente juste sans préservatif. Il m'a regardé avec des grands yeux, tu sais. Genre, quoi, ça y est. Et puis bah voilà, c'était parti. Après, on s'était posé la question, oui, avec le mariage, etc. Et puis on a dit, c'est pas grave. Hein, la question d'avoir un gros bidon ou pas au mariage, ça vaut tellement rien à côté de fait d'avoir. Ouais. Donc, advienne que pourra.
Sans indiscrétion, c'était quoi tes bloqueurs, toi, avant, pour ne pas vouloir tout de suite avoir un enfant ?
Eh ben, je sais pas. Non, je pense que je voulais profiter un petit peu de la vie, être avec mon chéri, construire mes projets pro aussi. Parce que la sophrologie, ça reste quand même quelque chose qui est peu connu. Comme c'est pas remboursé en France, c'est pas non plus le premier praticien chez qui on va. Donc, il y a tout un travail en amont aussi pour pouvoir développer son affaire. Donc, je pense que j'ai voulu me concentrer sur ça. Construire aussi la petite vie, une vie simple, stable avec Romain, devenir propriétaire. Enfin, vous imaginez bien le petit chemin idéal, très traditionnel qu'on peut imaginer.
D'accord, bon, super. Donc du coup, ça y est, Romain, je suis prête, on se lance. Comment est-ce que tout ça se passe ?
On était plutôt détendus, voilà. Au début, on se disait non, mais advienne que pourra, etc. Alors, on a mis un peu 1000 raisons dessus. Ouais. Oui, c'est le stress, on a d'autres choses à penser. Voilà, on s'est pas trop posé de questions. Oui, ça peut mettre du temps.
Tu avais des cycles réguliers à l'époque ?
Oui, moi j'ai toujours eu des cycles réguliers, bien que très courts.
D'accord.
Moi je suis autour de 23-24 jours, donc... Oui, le bonheur. Donc du coup, si par contre j'étais allée voir ma gynécologue... Et elle m'avait dit, ok, bon ben, quand même, si dans 6 mois, 1 an, vous avez rien, vous venez quand même me voir, on fera quand même quelques petits tests au cas où. On voit, hein, parce que pour nous, pour l'instant, il n'y avait pas d'urgence non plus. C'est cool si ça vient, et puis si ça vient pas, on verra à ce moment-là.
Bon, super. Donc du coup, vous essayez un peu à la cool. En même temps, vous préparez votre mariage. Donc c'est peut-être pas votre souci numéro 1, j'imagine.
Ça.
Tu prends les mots de ta gynéco avec des pincettes. Ok, 6 mois, 1 an, c'est assez vague et ça doit paraître un peu loin. Et du coup, 6 mois, 1 an plus tard, vous en êtes où ?
Bah, 6 mois, 1 an plus tard, nous sommes mariés. Et
Ah, super.
Oui. On est mariés et puis là, on se dit, oh ben... Si, là, on va s'y mettre. Donc, je dis...
Ouais.
En plus, moi, je suis très attentive à mon cycle depuis déjà bien longtemps, juste par rapport au fait que je prenais pas la pilule. Donc ça, je savais exactement, entre guillemets, quelle était ma période de fécondité, etc. Donc là, ici, dans les faits, je me disais, on peut cibler. Alors déjà, on voit qu'on avait passé un cap, on avait commencé un petit peu à cibler un peu plus les rapports. Et rien n'arrive, donc bah je décide d'aller voir ma gynéco, on sait jamais, hein. Et elle me prescrit les premiers examens, simple prise de sang et on voit ce qui se passe.
Un bilan hormonal quoi.
C'est ça.
Ok, très bien. Et alors qu'est-ce qui donne ces examens ?
Bah les premiers, y a rien de trop inquiétant. Voilà, il y a des chiffres qui sont un peu élevés, type la prolactine, la FSH, mais elle dit non, franchement, ça va. Après, ma gynéco, je l'aime beaucoup aussi pour ça. Elle m'a dit, après, si vous voulez pousser les examens, on peut. Mais elle dit, mais pour moi, dès lors qu'on pousse, si on veut trouver quelque chose, on trouvera. Donc, bon. Puis aussi, Romain, il commençait à se poser des questions. Il commençait à se dire, et si ça venait de moi ? Donc, 6 mois plus tard, de retour chez la gynéco, où là, ça y est, elle nous sort la batterie de test avec... toutes les joyeusetés du spermogramme, de l'échographie testiculaire, de l'hystérosalpingographie.
On déclenche le plan sec, quoi. On y va à fond.
Oui, c'est ça.
D'accord. Et donc là, on est à quoi? À peu près un an et demi que tu es décidé, donc que tu étais prête. Qu'est-ce qui donne ces examens et dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes tous les deux?
Ces examens sortent que, de mon côté, on va dire mécaniquement, il n'y a pas d'inquiétude. Oui, c'est ça. De mon côté, il n'y a pas d'inquiétude. Du côté de chérie, les résultats reviennent... on le ressent comme catastrophique, parce que le fait de voir ces nombres n'avoir même pas 1% de typique et 0% qui survit dans la demi-heure, on se dit, mais jamais on va réussir, quoi. C'est normal qu'au bout d'un an et demi, je sois toujours pas enceinte. Donc là, on tombe un peu de haut, quoi. Ça fait mal. Et donc la gynécologue, qui était une gynécologue de ville, nous dit, direction la PMA, enfin, si vous voulez... vous y mettre, je vous conseille de prendre rendez-vous déjà dans un centre.
D'accord, ok. Comment est-ce que lui vit tout ça d'ailleurs ?
Il le vit pas bien. Je pense que t'as beaucoup de PMF qui pourront, qui auront un vécu semblable, mais c'est est-ce que, enfin, tu resteras pas avec moi, t'iras faire un enfant ailleurs, etc. Donc voilà, ici lui ça a été un petit peu dur à digérer, mais en même temps il se disait. J'imagine. On va voir aussi si la médecine peut pas faire quelque chose pour nous, parce qu'aujourd'hui, il y a des chouettes choses qui peuvent être faites. Donc, c'était assez ambivalent comme sentiment.
Ouais. Non, mais bon, c'est normal aussi, c'est des nouvelles pas faciles à digérer quand ça se passe juste pas comme on se l'imaginait, quoi. D'accord. Donc, du coup, vous prenez rendez-vous dans un centre de PMA. Oui. Vous êtes... vous êtes... bien reçu. Comment est-ce que ça se passe du coup? C'est cool, vous avez peut-être pas à refaire tous les examens puisque vous venez de les faire?
Eh bien si. on nous fait passer exactement tous les examens, parce que ils n'avaient pas été faits dans le centre hospitalier où on a eu rendez-vous. Donc j'ai réussi à négocier à ne pas avoir à refaire l'hystérosalpingographie parce que c'est excessivement mal passé pour moi, donc je dis que ça je ne repasserai pas à travers ça, parce que de toute façon ils avaient cliché comme quoi tout passait bien, donc je voyais pas l'intérêt, et ils ont été cool sur ça, ils ont dit bon ok, alléluia. Mais donc en fait là on est reparti, on a eu 5 mois d'attente entre le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous, avec en gros 5 mois pour faire tous les tests, sauf que quand tu te débrouilles bien, en un mois tu peux tous les faire, quoi, t'as pas besoin de 5 mois.
Ah, c'est eux qui sont partis du principe que vous auriez besoin de 5 mois?
Oui, mais après c'est un CHR, c'est un centre hospitalier régional, donc l'État, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de rendez-vous, et du coup tant qu'on n'est pas entre guillemets dans le processus vraiment de FIV, ils espacent peut-être, ils mettent pas les priorités là, quoi, je pense.
D'accord. Et alors du coup, donc cette nouvelle batterie d'examen ne révèle rien de nouveau, si ?
Si, ça révèle pour moi. une réserve ovarienne basse, et en fait là ils me disent, mais madame, on est en fait vous êtes un mystère pour la médecine. Ça fait toujours très plaisir d'entendre ça, parce qu'en fait en gros côté hormonal type FSH etc, je suis à fond, et ils disent, si en gros on vous fait un protocole, vous l'hyperstimulation, on sait que vous allez y être. Le problème, en gros, c'est que votre corps produit vachement d'hormones qui normalement devraient vous faire ovuler, sauf que vous n'ovulez pas, ou très peu, ou de mauvaise qualité. Votre réserve ovarienne est très basse, et ça, on ne comprend pas. Physiquement, ce n'est pas possible. Et là, tu fais,
physiquement, c'est pas possible.
Si, c'est ce qui se passe dans mon corps. Donc en fait, moi, du coup, après derrière, on est reparti pour une autre batterie de test parce qu'ils voulaient voir si c'était pas planté. Passe 2 mois, et finalement, se reviennent exactement les mêmes résultats. Donc Chéri, lui, avait les mêmes que initialement les tests qu'on avait pu faire en ville, et donc moi, de mon côté, on me dit réserve ovarienne basse, avec, je cite, votre temps est compté.
Oh, c'est pas vrai, on t'a dit ça?
Oui, Non, c'est très sympa quand à 28 ans, on te dit que ton temps est compté. Et surtout quand on voit les délais qu'il y a entre chaque rendez-vous.
Ouais. C'est clair, ouais. Allier le geste à la parole.
C'est ça.
Ok. Bon, et alors donc on a bien compris qu'il ne l'explique pas vraiment, cette faible réserve ovarienne. Mais du coup... vous avez peut-être besoin d'un coup de pouce, ce qui est en soi une bonne nouvelle. C'est plutôt que de rester complètement inexpliqué, ils ont des solutions. Qu'est-ce qu'on vous propose concrètement?
Oui, là ici, comme c'est expliqué, et de toute façon, au regard du résultat du spermogramme de Romain, de toute façon, la technique, elle était évidente, c'était FIVICSI ou FIVIMSI. Du coup, en fait, une FIVICSI, c'est tout simplement, entre mille guillemets, le fait de venir introjecter un spermatozoïde directement dans l'ovule, l'ovocyte, alors que la FIVIMSI, là, en gros, il y a le biologiste qui va aller sélectionner un petit peu les meilleurs spermatozoïdes, les gros warriors, pour être sûr, en fait, pour optimiser un petit peu le fait que l'introjection de ce spermatozoïde dans l'ovocyte puisse donner un bel embryon.
D'accord, ok, bon, merci d'avoir clarifié tout ça. Et alors du coup, du fait de ta faible réserve ovarienne, est-ce qu'on propose quelque chose pour t'aider là-dessus aussi?
Eh bien là, c'est la grande question, puisqu'en fait, ils ont fait une réunion en équipe pour savoir ce qu'ils allaient faire pour moi, puisque je rappelle, je suis un mystère. Et donc en fait, le dernier rendez-vous, c'est soldé comme ça. Le dernier rendez-vous, normalement, on nous avait dit « Ah, vous allez voir, c'est bon, prochain rendez-vous. » Juste avant, plus j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc, entre guillemets, tous les voyants étaient au vert pour qu'on nous donne le protocole à ce fameux rendez-vous. Donc, nous sommes arrivés au rendez-vous pour obtenir les ordonnances et on ne nous en a pas donné en nous disant « Bah non, mais on doit refaire une réunion. »
Mais pourquoi ?
Ben, pour savoir ce qu'on va faire avec vous. Mais en attendant, c'est pas grave. Enfin, monsieur va repasser un spermogramme, le cinquième, au cas où, tu sais, ça aurait changé. Et donc, il a repassé son spermogramme. Mmh. Ils ont envoyé, je sais pas, donc nous, on est à Lille, ils ont envoyé une partie à Paris et une partie à Grenoble pour aller faire aussi des analyses de son spermatozoïde. On nous a demandé si on était consanguin. Enfin, voilà. c'est assez épique, notre parcours. Avant, en plus d'avoir le protocole, c'est ça le pire, c'est qu'on n'est même pas encore dans la phase on va faire un bébé, quoi.
Ouais, d'accord, ok. Bon, et d'accord, donc du coup, là, c'est récent, ça?
Oui, là, c'était au mois de février.
D'accord, ok. Donc du coup, là, vous attendez les derniers résultats ou comment, c'est quoi les prochaines étapes?
Eh bien, oui, en sachant qu'entre deux, on nous avait dit il faut que vous alliez voir le généticien. À titre informatif. Alors ça me fait toujours rire, aller voir, en sachant qu'il y a à peu près 5 mois de délai pour obtenir un rendez-vous chez le fameux généticien.
Ah, c'est pas vrai, d'accord.
Tout en sachant que la biologiste, qui nous expliquait un petit peu ce qu'ils allaient faire avec le spermogramme de Romain, nous a dit « Non, mais tant qu'on n'a pas les résultats du spermogramme, ça sert à rien de prendre le rendez-vous. Donc si ça tombe, vous aurez même pas besoin d'aller le faire. » Donc entre guillemets, même eux, entre les médecins, ils sont pas d'accord avec ce qu'ils vont faire avec nous.
Ah ouais,
en sachant qu'en tous les cas, ils ont dit on n'attendra pas les résultats de génétique si on doit pousser les recherches, parce qu'en moyenne, c'est 5 à 10 ans pour obtenir des réponses et vous n'avez pas 5 à 10 ans à attendre.
Puisque le temps est compté, comme on te l'a dit. Non mais d'accord. Oh, ok. Bon, alors donc du coup, encore beaucoup de points d'interrogation, est-ce que je comprends?
Oui.
Comment est-ce que, alors ça peut paraître un peu bête comme question, mais comment est-ce que vous vivez ça tous les deux? Comment est-ce que votre couple vit tout ça?
Alors on le vit, moi là sur le coup j'ai été assez affectée parce que je pense que j'étais très en joie de me dire ça y est j'allais avoir le protocole, donc le fait de dire non, je l'ai un peu moins bien vécu.
Ouais.
Je le prends avec beaucoup de recul, je m'étonne presque de ma sagesse. Je pense que la sophrologie ça aide vachement pour ça, c'est pas de l'autopromo mais ça aide vraiment. Je prends vachement de recul et je me dis, en tout cas, j'ai décidé de faire d'avoir cette philosophie de vie, de me dire, c'est parce que Constance, t'as d'autres choses à faire entre deux.
Ouais.
Là, c'est l'occasion de développer d'autres projets, entre guillemets. De toute façon, là, ton projet devenir maman, il est pas pour maintenant. Qu'est-ce que tu fais à côté? Et investis ce temps-là pour développer d'autres choses.
Bah, c'est super. Ouais, tu te tournes vers la création d'autres choses, mais te tournes. D'accord, donc tu t'occupes aussi beaucoup.
C'est ça. Après, mon chéri, lui, il est peut-être dans une autre optique. Après, on attend toujours parce que c'est pas nous qui décidons quand est-ce que les rendez-vous vont avoir lieu. Donc, tous les jours, on va à la boîte aux lettres pour voir si on n'a pas reçu de convocation. Donc ça, c'est toujours un peu...
Ouais, donc il y a aussi une partie un peu dans l'expectative qui doit pas être super, super évidente.
Complètement.
D'accord. Vous en parlez facilement tous les deux ?
Oui. Ça, c'est. La parole, elle est très libre sur ça. C'est vraiment un projet commun. Donc, c'est chouette aussi de traverser ça ensemble.
Oui, c'est clair. C'est important. Et alors, la place de votre parcours dans votre entourage familial et amical, est-ce que vous en avez un petit peu parlé ou pour vous, c'est trop tôt ?
Si, on en a parlé. Au début, on s'était dit on n'en parlera pas ou on en parlera au moins peut-être à nos parents. De mon côté, j'ai fini par le dire parce que c'était une réunion de famille qui a été extrêmement éprouvante pour nous dans le sens où je crois qu'on s'est pris au moins 26 fois des coups de « alors, c'est pour quand ?» Il faudrait peut-être s'y mettre. Romain s'est pris de la part de mon grand-père et c'était bienveillant, je pense, de la part de mon grand-père. Enfin, en tout cas, c'était pas s'il savait, il aurait pas dit ça, mais il a dit ah bah c'est que Romain, il sait pas s'y prendre. cette magnifique phrase. Donc là, franchement, enfin, on s'est plutôt refermé, voire beaucoup refermé à cette réunion de famille. Et la semaine d'après, quand j'ai vu mes parents, ils m'ont demandé un petit peu si ça allait parce qu'ils s'étaient posé la question et donc. J'ai fini par leur dire.
D'accord, ok.
De mon côté, les parents sont hyper cool, ils sont pas trop invasifs, mais en tout cas, j'ai mis un cadre. Je leur ai dit, ok, voilà, on vous l'a dit. Après, au même titre que... pour nous, le projet d'enfant, c'est un projet qui est hyper intime. Mm-hmm. Et au même titre qu'on n'envoyait pas des textos à nos parents à chaque fois qu'on faisait l'amour pour essayer d'avoir un enfant, on part du principe qu'on va pas leur envoyer un texto pour leur dire, je commence les injections, je fais ceci, d'accord. Je fais cela.
Ce qui est tout à fait légitime. Et ça leur va comme cadre. C'est un cadre qui vous va à tous.
Oui, ils le respectent, en tout cas. Après, ils sont très ouverts. Et voilà, si on veut en parler, on en parle. Et, ou alors, tu sais, par exemple, ils vont voir un reportage ou un truc. Forcément, eux aussi, ils se renseignent de leur côté. Mais c'est vraiment pas invasif, ça. Sur ça, on est très
chanceux. D'accord, tant mieux. Tu as des frères et sœurs, d'ailleurs ?
J'ai deux sœurs, ouais.
Qui sont mamans ou pas encore ?
Oui, elles sont toutes les deux mamans. J'ai une sœur qui a eu deux enfants de façon, très rapide pour l'avoir, et une autre sœur qui attend son deuxième et donc au moment où elle a annoncé sa grossesse, il y a eu le petit ah ben on pensait que vous alliez en avoir avant, qui a permis aussi de libérer la parole auprès de mes sœurs et donc de révéler qu'on était en PMA. Et c'est comme ça aussi qu'on a appris que ma sœur était également passée par la PMA pour son deuxième.
D'accord. Je souhaite bien sûr à personne d'avoir à passer en PMA, mais c'est chouette justement d'avoir pu libérer la parole dans la famille. Moi, je sais que le jour où j'en ai parlé à mes frères et sœurs, ça m'a énormément aidée.
Ça soulage, mais vraiment.
C'est
ça.
Et puis finalement, c'est de la même manière que le jour où tu tombes enceinte, alors il y a une pseudo-règle officieuse qui te dit de pas l'annoncer avant 3 mois. Moi, je suis assez contre parce qu'en fait, je pars du principe que tu l'annonces en fait aux gens qui seront là si ça se passe pas bien en fait, dont t'auras besoin de ces personnes-là. Et c'est pareil pendant ton parcours de PMA. Finalement, chacun bien sûr fait comme il veut, mais en tout cas pour moi, ça a été d'avoir mon entourage, mon système de soutien, si tu veux, qui était un peu dans la boucle et qui pouvait être là. Alors, tout le monde n'est pas passé par là, tout le monde n'a pas forcément toujours les mots, et c'est pas vraiment ce que je cherche, en fait, mais c'est qu'il soit là, en fait. Qu'il soit.
C'est ça. Mais la dernière fois, tu vois, c'était sur Instagram, j'avais posé la question, est-ce que vous le dites à votre famille ou pas? Et ce qui était revenu, c'était, donc il y en avait qui disaient, oui, pour moi, c'est évident qu'il faut le dire et tout, et comme ça, c'est un soutien. Et certaines avaient témoigné leur peur en disant, non, mais j'ai peur des réflexions, etc. Et parfois, en fait, alors je dis pas, il y en a vraiment dans les familles où il va y avoir des réflexions. C'est évident. Même si là, moi, je dis que ma famille a été bienveillante, on a eu des petits, mais en même temps, vous mettez toujours vos téléphones portables dans vos poches. Tu vois, donc... ou le fameux « Ah non, mais machin, il a essayé d'avoir un bébé pendant 4 ans, il est passé en PMA et finalement, ça a été naturel. » Oui, maintenant, si tu veux, je te donne mes résultats, tu verras que naturellement, c'est impossible. Voilà. Ouais. Mais par rapport à ces femmes qui avaient peur, je pense aussi que parfois, il faut réussir à évaluer est-ce que ça fait pas plus de mal de le garder pour soi et de se dire qu'en face, de se raconter presque ces histoires, ce scénario, que forcément, il va avoir des commentaires qui sont négatifs, qui sont dans le jugement, plutôt que de le dire, parce qu'au final, souvent, c'est un élan d'amour qui nous revient.
Bien sûr.
Les gens souhaitent de tout leur cœur qu'on puisse avoir des enfants. Ça, je pense que c'est assez unanime. Et c'est l'amour qui nous porte et, qui va nous porter au final peut-être dans ce soutien, ouais, une fois qu'on a dit qu'on était en PMA.
Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est important. Et en fait, il faut trouver... ce serait mon conseil, c'est de trouver cette famille, que ce soit par les liens du sang ou pas les liens du sang, mais ce cocon autour de nous qui peut justement nous porter et nous aimer et nous soutenir, et ça fait du bien. Depuis février, donc depuis ces nouveaux examens pour lesquels vous attendez de nouveaux résultats et de nouveaux rendez-vous, toi, tu t'es lancée du coup dans plein d'autres projets. Alors forcément, tu me vois venir à 10 000 km, nous allons parler de ton podcast, oui, de ton accompagnement du coup des couples en PMA en sophrologie. Comment t'es venue l'idée de ce podcast ?
Bah justement, en fait, quand je suis rentrée en PMA, quand j'ai pris conscience que ça y est, moi aussi, entre guillemets, je devenais une PMA, je suis allée voir un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc moi, je l'avais déjà vécu au sein de mon cabinet, les femmes en souffrance. Mais je me disais aussi, Constance, les gens qui viennent te voir, généralement, c'est pas parce qu'ils pètent la forme. Donc c'était normal qu'ils témoignent une forme de souffrance. Et en allant sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que cette souffrance, elle était énorme. Et il y avait une énorme aussi communauté qui se faisait autour de la PMA. Enfin, vraiment, s'il y en a qui écoutent ce podcast et qui ne sont pas allés sur les réseaux sociaux et que vous cherchez un peu de soutien, un peu de compréhension, peut-être allez voir de ce côté-là, parce qu'il y a une véritable sororité qui s'est créée. Mm-hmm. Et je me suis dit, Constance, tu traverses tout ça et entre guillemets, tu es déjà spécialiste au final. C'est l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que tu as accompagné des gens, tu accompagnes d'ailleurs toujours des gens en sophrologie pour mieux vivre leur parcours. Pourquoi tu ne le mettrais pas à profit ? Parce que là, ici, il y a tellement de personnes qui témoignent de leur tristesse, de leur colère. Et alors que tu as des outils, toi, pour peut-être les aider à traverser ce parcours de façon plus douce, pour que ce soit un peu moins violent. Donc, c'est ça qui m'a donné envie de faire ça.
D'accord, super. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton podcast ? C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un podcast très complémentaire de celui-ci, puisque tu ne donnes pas la parole à des PMET ou FIVET ou des personnes, des couples qui passent par là, mais tu vas justement aller donner des clés. Est-ce que tu peux raconter un peu ta démarche, comment tu construis tes épisodes ?
En fait, je pars du principe... Enfin, à chaque épisode, je vais traiter d'une thématique, d'un problème entre guillemets que les PMET peuvent rencontrer au cours du parcours. Alors ça va aller là, le dernier, justement c'est rigolo parce que celui qui est sorti aujourd'hui, c'est autour du est-ce qu'il faut le dire à la famille ou pas. J'ai aussi traité de cette question du alors c'est pour bientôt ou alors c'est pour quand. Ça, c'était mes deux premiers épisodes. Et voilà, ici des moments clés par lesquels tout le monde passe, je pense, quand on est dans ce parcours. Et à chaque fois, je fournis quelques petits tips, des outils pour soit essayer de prendre de la distance, pour mieux gérer au final. Donc parfois, ce sont des outils de sophrologie et parfois, ce sont aussi des outils de PNL, parce que je suis également praticienne en PNL.
Écoute, c'est une super idée. Moi, j'avoue que j'ai énormément de plaisir à écouter tes podcasts. Qu'est-ce que, en sens, je peux te souhaiter pour la suite ? J'ai quelques petites idées quand même, mais je veux bien que tu me...
Je pense que à toutes les personnes à qui tu poses cette question qui en PMA, c'est d'avoir un bébé. Mais au-delà de tout ça, au-delà de cette perspective qui pour l'instant n'est pas là, c'est peut-être de continuer au final ainsi, parce que là, je vais peut-être étonner énormément de personnes, mais c'est vraiment le bilan que je fais de cette semaine. Je réfléchis beaucoup. Je pense que quand on est en PMA aussi, c'est le moment de revenir à soi et de se poser des questions sur qui on est, dans quelle direction on va. Et en fait, je suis en train de me dire que, étonnamment, je vis ma meilleure vie actuellement. Je suis en train de revenir beaucoup à moi et de savoir ce que je veux dans la vie et de me rendre compte aussi de toutes ces belles choses qui m'entourent. Mmh. Et donc, de continuer ainsi. Certes, les émotions seront toujours là. Mmh. Il faut les accueillir et je pense que j'y arrive plutôt bien. Je les accepte et donc en fait au final, au-delà de cette difficulté, je suis heureuse et mon couple se renforce et il y a beaucoup d'amour. Alors peut-être continuer dans cette énergie d'amour.
Ouais, c'est génial, c'est plein d'espoir tout ça, c'est super. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Constance, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans les essais bébés ou qui commence à se dire qu'il va falloir passer par un parcours de PMA, ce serait quoi le conseil que tu donnerais ?
Ouais, si je devais donner un seul conseil, c'est prendre soin d'eux, et notamment prendre soin de choisir un environnement qui est propice. On le sait, il suffit de regarder à chaque fois, même aux infos, quand on parle de la PMA, on parle souvent de combat, de la difficulté. Voilà, c'est autant de mots extrêmement négatifs. Et en effet, c'est pas aller à Disneyland, hein, être en PMA, clairement. Et donc, c'est hyper important de savoir s'entourer, d'avoir un environnement qui soit le plus serein, qui nous fasse du bien pour pouvoir revenir à soi et surtout ne pas s'oublier. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Ne pas oublier que on est quelqu'un au-delà d'être une femme, d'être une conjointe en essai bébé. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois souvent. C'est en fait, finalement, la vie ne tourne plus qu'autour de ça. Et c'est vrai parce que de toute façon, presque les rendez-vous, on ne les choisit pas. On nous dit, sois là à telle heure, fais ceci, fais cela, mange comme ça, pique-toi là. Et c'est hyper compliqué. Et donc, savoir ici avoir un environnement propice pouvoir revenir à soi. Ça, c'est vraiment le conseil numéro un, ne pas s'oublier.
Ouais, je pense que c'est hyper important, tu as tout à fait raison. Merci infiniment, Constance. Si on veut, te retrouver, donc ton podcast, il sort tous les vendredis, il s'appelle oui. To Be Love. Et si on veut aller prolonger la discussion avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver ?
Principalement sur Instagram. Vraiment, j'interagis pas mal avec Instagram, alors... J'ai découvert ça il y a genre 3 mois. Je débute encore, mais je prends vraiment le temps de répondre à tous les messages privés, de vraiment pour échanger. Je viens de créer ma page Facebook aussi, mais en fait, je ne l'ai pas encore diffusée, donc j'ai genre 2 likes. N'ayez pas peur, elle vient juste d'être créée. Mais oui, non, c'est sur Instagram que j'interagis le plus et vous pouvez vraiment me retrouver là-bas.
Ok, super. Mais écoute, je partagerai ta page et tes pages, du coup, la page Facebook aussi, dans les notes du podcast. Écoute, Constance, un immense merci d'avoir pris le temps de venir raconter votre histoire avec Romain, de venir raconter justement tes projets à côté. Et merci pour tout ce que tu fais pour justement, comme tu le dis, la communauté, la sororité. C'est absolument génial. Tu vois, je suis plus actuellement en parcours PMA. Mais c'est un podcast que j'ai énormément de plaisir à écouter et comme tu le dis en fait, je crois que le maître mot qui permet de se recentrer sur soi et ça fait un bien fou. Donc merci beaucoup, je souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt.
Merci, à très bientôt Anne-Fleur.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram Alors c'est pour bientôt podcast ou sur le site internet alorscestpourbientotpodcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.